Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, cinq tout petits enfants, cinq orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer.
Je suis le fils de Joséphine Baker de Jobouillon. Après, quand je parlerai d'eux, je parlerai de, comme je les ai toujours appelés, papa et maman. Moi, j'ai eu de la chance d'être élevé par une personne, deux personnes, parce que mon père aussi était assez exceptionnel dans son genre, si vous voulez, hors du commun. Mais eux-mêmes se considéraient comme des gens tout à fait normaux. C'est-à-dire, ils faisaient les choses qu'ils pensaient qu'ils devaient être faites. Ce sont des porte-paroles. Ce sont des gens qui, contrairement à d'autres, ne disent pas « tout va bien ». Ils disent « oui, ça va bien, d'accord. C'est vrai qu'on a éradiqué pas mal de mots, mais il y en a un qui existe et il est millénaire, c'est le rejet de l'autre. Et le rejet de l'autre, d'où il vient? Ce rejet, il vient de la peur que l'on a. C'est la méconnaissance. Donc voilà, et c'est ça que maman, si vous voulez, dans sa tête, ça tournait comme ceci. Elle a peut-être pas exprimé, elle a exprimé sur des choses qui étaient visibles. Donc, couleur de peau, à l'époque, parce qu'on ne parlait pas de ségrégation sociale. Il y en avait, mais on cachait bien ça, on la mettait de côté.
Au sein de votre tribu arc-en-ciel, donc vous avez 11 frères et sœurs,
oui,
avec tous des origines différentes. Pour la plupart. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les présenter, chacun?
Bien sûr, si vous voulez, la tribu, la fratrie, elle se compose de moi-même, à Kyo, donc je suis né au Japon. Il y a Louis. Alors, Louis, lui, il est né en Colombie. Et Louis est né de papa ou maman noire ou autochtone. Et puis, de l'autre côté, on ne sait pas trop, comme moi. Après, il y a Jari. Alors, Jari, lui, c'est un Scandinave. Il est né en Finlande. La Jari a été adoptée parce que ses parents d'origine ne pouvaient pas l'élever. Jari a retrouvé ses parents beaucoup plus tard. Après Jari, il y a eu Jeannot. Jeannot, c'est un japonais. Il est né aussi dans l'orphelinat, enfin à Tokyo, et il a été recueilli, comme moi-même, dans le même orphelinat. Jeannot, il faut que je fasse le compte. Jean-Claude, lui, est né dans la région parisienne, il est d'origine bretonne. Bon. Moïse, c'est un cas différent. Moïse, ça s'appelait Alain, tout ça, mais c'est un juif, de religion juive. Bon. Moi, j'ai toujours eu mes doutes là-dessus, mais bon, il semblerait que maman ait réussi, parce que en général, c'est rare qu'un enfant juif soit donné à l'adoption. C'est très rare. Il ferait partie de l'exception qui confirme la règle. Après Moïse, il y a eu Brahim et Marianne. Alors, Brahim et Marianne sont nés en Algérie, tous les deux à Alger. Et la particularité des deux, c'est que l'un, Marianne, est fille de colon. Ibrahim, lui, il est un autochtone. Il est berbère d'origine. Après, il y a Kofi. Alors, Kofi, lui, est né en Côte d'Ivoire. Mara, lui, il est né au Venezuela. Après, il y a Noël. Noël, lui, et les deux derniers, c'est des aléas de la vie, Le hasard a fait qu'ils sont venus dans la famille. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 12.
Il n'y avait pas une autre fille?
Si, c'était Lina. Ah. Voilà, c'est les deux derniers. Ah. Mais comme je dis, eux n'étaient pas prévus au programme, on va dire. Même les six premiers étaient prévus au programme. Le reste, c'est le hasard. C'est l'occasion qui fait le larron, va-t-on dire. Mais c'est ça.
C'était quoi le programme?
Elle voulait démontrer, ne serait-ce que par ça, déjà que des enfants de différentes couleurs pouvaient vivre ensemble. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on n'a pas les mêmes religions. Je suis shinto, Jeannot est bouddhiste, j'ai des frères qui sont catholiques, j'ai un frère qui est musulman, j'en ai deux même, et il y a les catholiques. Et ça voulait dire qu'on était tous, on vivait dans un pays chrétien. Hein. Donc, tous, autant que nous sommes, nous avons grandi dans cette tolérance, cette acceptation de l'autre, de la religion de l'autre.
Et vous aviez conscience, étant enfant, de faire partie un peu d'une, de ce, comme vous l'avez dit vous-même, d'un programme, ou en tout cas d'une volonté de votre
oui,
maman de...
Oui et non. Oui, parce que on se rendait bien compte qu'on était différents et que maman nous faisait faire certaines choses que faisaient pas les autres gamins. Hein. C'est-à-dire aller à Paris, monter sur Paris, monter sur scène et faire la distribution de pour les petits vieux de Paris, par exemple, des colis de Noël ou des choses comme ça. Ou quand on est allé en Algérie, on s'est retrouvé avec des gamins qui venaient du fin fond de l'Algérie, qui arrivaient avec des maladies. Ça, c'était le programme algérien, juste après la guerre d'Algérie. On est allé, dans les années 60, c'était un désastre. Quand on est allé à Cuba, c'était la même chose. Alors moi, on est allé à Cuba dans les années 65, 66. On s'est trouvé confronté à un monde qu'on ne connaissait pas.
Et donc vous avez passé votre enfance à voyager beaucoup avec votre...
On a eu de la chance, mais attends, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est allé, on était scolarisés, attends, il ne faut pas croire. Hein. Classe primaire à Castelnau-la-Chapelle et lycée jusqu'en 68 à Belbès. J'ai des copains encore ici. Mes copains s'amusaient, mes collègues de travail, je leur disais, moi je suis originaire du sud-ouest. J'ai grandi ici. Vous savez, votre enfance, là où vous passez, où vous apprenez à marcher, pratiquement à parler, les premiers copains, les premières amourettes, c'est ici que je les ai eus. Je ne les ai pas eus à Paris ou à Monaco ou ailleurs, ici. Et bon, ça, c'est une chose. Après, il y a le château. C'est un autre point d'ancrage.
Madame, depuis combien de temps avez-vous commencé à vous installer ici?
Depuis 1939. C'était le premier ruisseau de la résistance. Le château là-haut était entouré des Allemands. Au commencement de la résistance, et c'est moi qui les ai reçus parce que on combattait pour la liberté à ce moment-là aussi. Il y a eu des gens ici comme infirmières et même notre chef de gare qui était pris en première otage. Tout ça passait ici au Milande, ça partait ailleurs. Comme vous voyez qu'il y a beaucoup de boiseries ici, eh bien, c'était très bien pour les maquis, les maquisards. Tout ça a commencé ici. J'ai continué jusqu'à la liberté complète de la France.
Madame, qu'advient-il au Milande?
Ben vous voilà, voilà bien, vous-même, isolement.
Et que comptez-vous faire?
Je ne sais pas. Je compte sur mes amis, je compte sur ceux qui croient que j'avais raison de créer un village pareil de la fraternité.
C'est le château dans lequel vous avez grandi. Qu'est-ce
bien
que c'est
sûr.
Cet endroit?
C'est mon chez-moi. Enfin, c'était mon chez-moi.
Quel âge vous aviez-vous quand vous êtes arrivé là-bas?
J'avais 2 ans, même pas, puisque j'ai été adopté à 18 mois. Donc, j'avais 2 ans, quoi, on va dire. Donc, c'est mon chez-moi. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes premières bêtises. Après, ça a été un déchirement quand on est parti, mais c'est... Ça ne départ pas du fait que c'est comme pour tout le monde. Nous avons grandi, on a eu la chance de grandir dans un château, certes, mais ça aurait été une masure, ça aurait été la même chose. Votre maison, entre guillemets, natale, c'est important.
Et quelle atmosphère il y avait là-bas quand vous y étiez enfant avec vos 11
frères? Le chaos organisé. Alors, le chaos. Bah, 10 parce que pour les plus jeunes, non, ils ne pouvaient pas. Mais 10 gamins, je peux vous dire que c'était du sport. Quand vous discutez avec les gens, c'est... Là, moi, je vois mes copains, bon, ils nous voyaient débarquer à l'école, mais quand on débarquait à l'école, c'était pas un, c'était 6. En plus, bon, multicolore, alors. Moi, je me souviens, quand on est arrivé, déjà avec maman, on arrive à l'école, à Castelnau-la-Chapelle, je leur raconte souvent ça. Déjà, maman, elle n'avait aucune idée de ce que c'était que la rentrée, tout ça. Il faut que vous alliez à l'école, d'accord. Oui, mais maman, la rentrée, c'est le 2 octobre. À l'époque, c'était le 2 octobre. C'est le 2 octobre. Ah oui, mais on est le 15, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous alliez à l'école. Oui, d'accord, on va à l'école. Seulement, quand on rentre dans une salle de classe, que tout le monde est en train d'écouter la maîtresse et qu'il y a Sigmund qui arrive, un peu multicolore, tout ça. Ah bah. On est le centre de l'attention. Bon. Après, quand on sort, on va jouer. Bah, les gamins, c'est pour la plupart, pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient un noir ou qu'ils voyaient un jaune. Hein. Hein, il faut voir les petits. Il faut s'imaginer les gamins de l'époque. Ici, il y en avait. Déjà, ici, il n'y a pas beaucoup de noirs. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Et comment ça se passait avec les autres enfants alors?
Ah ben, explication dans le texte, c'est la première des choses. On a constaté, t'es black, oui, ben, ou t'es jaune, oui, d'accord. Vous savez, une fois qu'un gamin, un enfant, et maman partait de ce principe, elle a raison, un enfant, il fait une constatation. Après, c'est fini. Il ne va pas continuer. Ils s'en foutent que vous soyez black ou tout ça. L'important, c'est que qu'il puisse jouer avec vous. Il puisse échanger avec vous. Et si vous vous mettez au banc de sa petite bande, c'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes musulman, il s'en fout comme de l'an 40. C'est parce que soit il vous considère comme un con, bon, comme quelqu'un qui est infréquentable parce qu'on ne peut pas jouer avec. Voilà la discrimination qui existe dans les cours de récré au départ. C'est tout.
Mais donc avec vos frères et sœurs, vous aviez des copains, des copines
Bien sûr, Floréal. Moi, Floréal, je le vois, je l'ai régulièrement à l'appareil. C'est comme Jean, c'est comme Jean-Jacques, tout ça. On a grandi là-dedans, on n'a pas... C'est peut-être une chance qu'on a eue, c'est de grandir ici, dans ce milieu. Mais de ne pas grandir dans un milieu citadin. Déjà, les gens, si vous voulez, il faut se reporter dans les années 50. Vous étiez un bougeux. Un gamin, quand il allait à la ville, souvent c'était le paysan, le bougeux du coin. Hein? C'est très violent, ça. Ben, ici, non, nous, on était aussi bougeux, sauf que la différence, c'est qu'on avait une maman qui était connue. D'accord, mais c'était la même chose. Moi, quand je suis allé à Paris, ou quand je suis allé après à Menton, heureusement que je faisais du sport, donc que je me suis intégré, mais sinon, j'aurais été mis de côté, non pas parce que j'étais jeune, il y en avait, mais parce que je ne venais pas du même milieu.
Et le fait d'avoir une maman connue quand vous étiez petit, vous le viviez comment? Vous vous en rendiez compte?
On s'en rendait compte, mais en même temps, ça nous faisait chier. Pour être très sincère.
Pourquoi?
Ben parce que vous pouvez pas... vous savez, quand vous êtes sous les feux du projecteur, quand vous allez quelque part... Ah! Vous avez l'impression d'être un singe. Alors que nous, personnellement, on ne demandait qu'à vivre, puisqu'on avait été éduqués comme ça. Et le fait d'aller à l'école et de côtoyer les gamins, ses copains maintenant, ben, ça nous avait mis les pieds sur terre. Hein? Parce que on aurait pu aller dans des écoles haut de gamme et tout ça, ça aurait été, c'était le rêve de maman. Il faut savoir que maman n'avait pas reçu l'instruction qu'on a reçue. Et donc, elle était consciente de l'importance de l'éducation. Moi, j'ai passé mon bac dans une boîte à bachot. Et après, toujours, elle dit, bon, maintenant, il faut trouver la fac. Soit je devais faire Sciences Po, soit j'aurais pris Aix-en-Provence. Paris, c'était... Non, tu pars au Japon. Enfin, je te propose d'aller au Japon. OK. Au moins, on me propose le voyage. Je me barre, donc, un an et demi, je reviens. Et elle avait, en revenant, elle me dit, Akio, tu as cherché. Je dis, écoute, quand je rentrerai à la maison, je verrai, je vais chercher des facs. Elle partait du principe, moi, j'ai réussi à m'éduquer, entre guillemets, par moi-même. Donc, tu dois réussir, si je te donne les moyens, à aller vraiment loin, intellectuellement parlant.
Je me demandais, quand vous avez fait ce voyage au Japon,
oui.
C'est votre maman qui considérait que c'était important pour vous de connaître vos origines.
Ah bien sûr, mais pas seulement pour moi. Pour chacun d'entre nous, elle désirait qu'on connaisse, au moins qu'on ait une idée. Et je vais vous dire, c'est pas si faux que ça. Parce que quand vous grandissez ici, vous réagissez, mais vous avez, on va dire, l'inné qui reste. Et donc, vous avez des réactions face à des événements différents de vos petits copains. Et tant que vous n'avez pas cette explication, vous vous dites, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quand je suis retourné au Japon et que face à certaines situations, il y avait tout le monde qui réagissait comme moi, là, tout s'est remis en place. Je me suis dit, d'accord. Ok, il y a des gens qui réagissent comme moi. Je ne suis pas un énergumène, on va dire. Je ne suis pas unique dans mon cas à réagir comme ça. Qu'on le veuille ou non, ça revient.
Et donc ce voyage, ça vous a...
Ça m'a permis de remettre tout ça d'équerre. Toutes ces petites... Ce sont des détails. Attention, on peut très bien vivre avec. Mais le fait d'y aller, ça m'a permis de remettre toutes ces petites choses qui me dérangeaient un peu. Cœur.
Et parmi tous vos frères et sœurs, vous êtes le seul qui a décidé de revenir vivre sur les lieux de votre enfance.
Alors, je suis le seul, oui, parce que bon, moi, j'ai aucune attache. Je suis seul, donc j'ai aucune attache de lieu, si ce n'est ici. J'ai aucun pays qui ici. J'ai aucun membre de la famille qui vit. Donc, si je suis revenu, c'est pour une autre raison. C'est pas rapprochement familial ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est le lieu où j'ai grandi. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai ça là? Attends. Je dois avoir quelques photos de famille, mais sur le téléphone, comme tu as vu. Alors. Déjà, non, on va voir ça. Alors, on va faire ça. Est-ce que je peux? Voilà. Kofi. Et ça, ce sont ses filles. Il vit en Argentine. Après, il doit y en avoir. Alors,
c'est votre fond d'écran.
Oui, bon, parce que je les vois pas souvent. Le reste, je les ai tout le temps. Si j'ai envie de les voir, je prends le train. Alors, voyons. Alors, ça, c'est Moïse, il est décédé. Alors, il était là, c'est quelques temps avant son décès. Alors, Louise, voilà. Alors, ça, c'est une de mes nièces qui est venue, c'est récent. Hein. Louise, dont je vous ai parlé, le Colombien, et Jeannot, qui, lui, est né au Japon.
Ah.
Voilà. Et ma nièce, la fille de Kofi. Après... Voilà, ça c'est réunion familiale, attendez. Il y a ma nièce, son mari, ma belle-sœur. C'est une relation fraternelle, c'est-à-dire une fratrie normale. On s'engueule, on est content, on se fait la gueule, on se tourne le dos. Bon, t'es mon frère, oui, d'accord, ça va. Ce qu'ils ont réussi, les parents, c'est que... Et que ça soit avec ma cousine aussi, parce que j'ai une cousine qui est aussi adoptée. Et c'est la même chose, elle m'a fait une... elle s'est engueulée avec la moitié de la famille, la cousine. Bon. Et il se trouvait que je discutais un jour avec elle et... On était que tous les deux, elle me dit, me raconter une histoire avec ses engueulades avec les frangins. Et elle me sort, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est famille. Point. Ça dit tout. Quand on sait qu'elle est adoptée aussi, comme nous. Moi, quand on me parle de ma famille, beaucoup de gens me disent, ah, mais tes frères adoptés. Non, 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 mais ce sont mes frangins. Qu'est-ce que tu as besoin d'adopter? Attends. Je lui dis, on a été élevés ensemble. Je lui dis, on est beaucoup plus, on va dire, unis que certaines fratries, c'est ce que m'ont dit des gens. Que certaines fratries qui sont issues du même père et de la même mère.
Et mon cœur de maman les aime tous autant. Si mon village pouvait servir un jour de témoignage et symbole d'amour. Si tous les gens d'ici de là, si tous les peuples ici-bas sont occupés de leur couleur, n'avait qu'un cœur. Tous les villages alors seraient heureux, tous les visages alors seraient joyeux, et peu à peu le monde entier serait meilleur et deviendrait un grand village où tous les hommes seraient.